Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence où on va parler de l'humain, de l'être humain, depuis ses spécificités génétiques en tant qu'espèce jusqu'à sa place à l'intérieur du grand monde de la famille humaine et de la famille planétaire au niveau de la génétique des populations et au niveau de ses interactions avec les autres espèces. Donc la génétique, c'est une science qui a connu une évolution extrêmement rapide puisqu'il ne s'est écoulé que 37 ans entre le moment où Watson et Crick ont modélisé la double hélice d'ADN et le moment où on a commencé à lancer le projet génome humain pour séquencer l'intégralité de notre ADN codant. Donc pour discuter de tout ça, j'ai avec moi Emmanuelle Génin, donc, qui est directrice de recherche à l'INSERM et qui est à la tête du laboratoire génétique, génomique, fonctionnelle et biotechnologie de Brest. Emmanuelle a eu le prix recherche INSERM en 2017 pour ses travaux sur le séquençage du génome et elle travaille également dans le plan France Médecine Génomique 2025. J'ai également avec moi, pour aborder toute la partie littéraire, science-fiction et l'impact de ces découvertes dans la littérature, Sylvie Lenné, qui est professeure de sciences, information et communication à Lyon, qui travaille donc sur les mutations numériques. Elle a publié un très grand nombre de nouvelles et novellas qui ont été saluées par un très grand nombre de prix, donc 2 fois le Grand Prix de l'Imaginaire et 4 fois le Prix Rognier-Aîné, entre autres. Avec Emmanuelle et Sylvie, nous allons essayer de parler de la génétique humaine dans sa spécificité et dans sa globalité. Donc la fin du séquençage du génome humain, c'est en 2003, donc c'est relativement récent. Emmanuelle Génin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le génome humain? Et est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on a séquencé ce génome qu'il n'y a plus rien à découvrir en génétique?
Alors le génome humain, c'est en fait la séquence de ces molécules qu'on voit et qu'on va pouvoir décrypter. Donc le séquençage, ça a consisté à lire en fait cette séquence de nucléotides. Donc c'est il y a 4 nucléotides possibles A, T, G, C. Donc d'essayer de comprendre comment ils étaient organisés sur cette grande molécule d'ADN. Donc l'ADN, vous pouvez l'imaginer comme un espèce de grand fil, même s'il est organisé en structure particulière. Et donc le séquençage, effectivement, en 2003, il a été réalisé. Donc ça a été la finalisation, parce que les projets de séquençage, ils ont été lancés plus de 10 ans auparavant. On a mis plus de 10 ans à séquencer le premier génome humain. En fait, on a séquencé plusieurs génomes pour avoir une idée d'une séquence de référence. Et ça avait coûté à peu près, donc il y a le génome humain, c'est 3 milliards de nucléotides. Et ça avait coûté 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui, en fait, avec l'évolution des techniques de séquençage, on peut réaliser du séquençage pour à peu près 1 500 dollars, donc le séquençage d'un génome. Et on peut le faire très vite à l'échelle d'une journée ou quelques jours en fonction des machines dont on dispose. Mais en tout cas, c'est effectivement plus du tout c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a tout compris? Eh ben non, au contraire, peut-être que c'est l'inverse, en fait. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé et qu'il y avait notamment, dans le génome, on savait qu'il y avait des parties codantes. Mais ces parties codantes, elles représentent seulement environ 1-2% du génome. Et il y a toute une partie inexplorée. Jusqu'à présent, on pensait que c'était de l'ADN qu'on appelait même de l'ADN poubelle. Mais en fait, c'est beaucoup d'éléments régulateurs qui expliquent comment les gènes vont s'exprimer. Donc non, on n'a pas tout compris. Et puis la première séquence en 2003 ne nous a pas permis aussi de tout comprendre, puisque ça a été juste... en fait, on n'a pas pu mesurer encore toute la diversité. Aujourd'hui, les projets vont viser à essayer de voir les différences qui existent entre individus.
Merci beaucoup. Sylvie, dans votre travail, dans vos nouvelles, notamment dans l'opéra de Chaya, vous avez une forte inspiration de la génétique, de la génétique humaine et de son interaction avec l'environnement. La génétique, c'est très inspirant pour les auteurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu inspirant suite aux récentes découvertes ou est-ce que ça l'a toujours été?
Alors, je crois que tous les sujets peuvent être inspirants, surtout ceux dans lesquels on n'est pas expert. parce que ben moi je suis une scientifique, mais dans un domaine très différent, et c'est beaucoup plus difficile de faire travailler son imagination créatrice sur des sujets qu'on connaît trop bien, parce que on connaît trop bien l'état actuel de la recherche et des théories dans le domaine, et c'est très difficile de s'en dégager. Moi, je n'écrirai jamais une nouvelle avec des intelligences artificielles conscientes d'elles-mêmes, par exemple. Je peux pas. Il y a des auteurs qui le font très bien. Par contre, s'il s'agit de parler de chimie ou de génétique, dans la mesure où je suis pas du tout une experte, ben oui, c'est un tremplin extraordinaire pour l'imagination. Et je dois dire des tas de choses totalement hérétiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut jouer avec des idées formidables autour de cette thématique-là ?
Et alors, dans le travail des auteurs au niveau de la génétique, très souvent, que ce soit dans les films comme Bienvenue à Gattaca ou dans d'autres comme Le meilleur des mondes, etc., on va beaucoup travailler sur les modifications à l'intérieur de l'humain, parfois pour créer, on va dire, un humain amélioré, un surhomme. Est-ce que dans l'imaginaire collectif, c'est à ça que sert la génétique ?
Ben, c'est vrai que l'eugénisme, c'est un angle extrêmement courant, puisque il n'y a pas que quand on parle de transhumanisme qu'on peut prendre la chose sous cet angle. Et c'est assez logique de se dire, après tout, si on peut agir sur le génome, autant l'améliorer, autant tirer le meilleur parti, autant éliminer tous les caractères récessifs qui ont des effets pervers et qui crée des problèmes. Donc, c'est en première approche, ça paraît tellement naturel. Bon, ce qui est passionnant avec Bienvenue à Gattaca ou avec Le meilleur des mondes, c'est que une fois qu'on a franchi ce stade, qu'est-ce que ce serait bien ? Ben, on peut commencer à se dire oui, mais quelles seraient les conséquences des conséquences sociales ? Et en fait, je crois que nous, c'est souvent comme ça qu'on se positionne en tant qu'auteur, c'est-à-dire que une fois que la technologie, une fois qu'on a imaginé qu'elle était engagée, qu'on était capable de la mettre au point, comment elle se déploie au niveau social ? Quelles sont les conséquences en termes d'organisation sociale ? Elles sont terribles dans Le meilleur des mondes, encore que tout le monde est malheureux. Tout le monde est heureux dans Le meilleur des mondes. Il n'y a que le visiteur qui débarque de l'extérieur, qui trouve le système choquant et dont le malaise se diffuse petit à petit. Mais finalement, bon, je pense que tout le monde connaît Le meilleur des mondes, mais je rappelle juste qu'on ne sait pas, c'est pas de l'eugénisme au sens où on n'améliore pas le génotype des meilleurs, mais c'est simplement au sens où on s'est dégradé le génotype et du coup on peut élever, laisser les fœtus se développer dans des environnements défavorables où ce qu'on appelle, il y a les alpha, les bêta, les gamma, on descend jusqu'aux epsilon. Les epsilon, on leur impose dès la conception une dose d'alcool bien toxique, très nuisible à leur développement, ce qui fait que leurs capacités mentales sont amoindries et qu'ils sont très heureux en faisant des tas de petits jobs du style conduire les ascenseurs, parce qu'ils ne rêvent pas à quelque chose de plus passionnant que leurs... Donc la société est optimale. Bon, mais ça nous interroge, nous, parce que c'est pas le fonctionnement de notre société. Pourtant, tout le monde y est heureux.
Oui, donc du coup, on se soucie d'éthique en littérature, on s'interroge sur l'éthique en littérature. Qu'en est-il en science ?
Alors, c'est exactement la même chose. Et puis, en fait, moi, quand j'entends parler des mauvais gènes, enfin, d'ailleurs, on ne peut pas parler parce que tout le monde a les mêmes gènes, hein, c'est juste les variations qui existent. En fait, je pense que cette vision complètement binaire blanc-noir, elle n'est pas là, parce qu'il y a des variants qui vont conférer un avantage pour quelque chose et puis au contraire être délétères. Alors bien sûr, je ne parle pas des maladies monogéniques où là, il y a vraiment une mutation qui va conduire à la pathologie, mais il y a énormément aujourd'hui d'études sur ce qu'on appelle des maladies multifactorielles ou complexes, où là, on a des facteurs génétiques qui peuvent conférer un risque, un peu comme des facteurs d'environnement, mais ces facteurs génétiques, c'est quoi ? C'est aussi des des variants qui existent dans la population et qui peuvent peut-être, au contraire, être aussi favorables dans un autre environnement. Donc on ne peut pas se dire qu'il faut... On ne sait pas à quoi on touche, en fait, si jamais on élimine et puis ces variants-là. Et peut-être qu'au contraire, dans un autre environnement, ils vont être favorables. Donc c'est plus compliqué. Et effectivement, en génétique, on se pose aussi beaucoup de questions sur... l'éthique et comment on doit appréhender les choses, et puis avec l'implication que ça a aussi, non seulement pour soi, mais pour tous ses apparentés. Enfin, c'est peut-être une question sur laquelle on reviendra après, mais effectivement, c'est aujourd'hui une problématique, et puis aussi le droit de se dire que certaines personnes ne veulent pas savoir. Donc ce droit de ne pas savoir aussi quel risque on a en fonction des facteurs. Surtout que c'est encore une science qui, comme disait Mélanie au départ, est une science récente et on connaît, on maîtrise pas encore entièrement les choses. Et puis on arrive à peut-être, il faut éviter effectivement de se dire qu'on a la réponse à tout et de prendre... l'exemple de certaines maladies où on a effectivement des variants qui sont très, très, très forts, qui ont des effets très forts dans toutes les situations, parce que c'est pas vrai pour toutes les pathologies.
Et alors du coup, tout à l'heure on parlait de caste, de déterminisme génétique, que ce soit dans Le Meilleur des Mondes ou dans Bienvenue à Gattaca. Avec l'avancée de la connaissance sur le génome humain, l'avancée des découvertes, est-ce que c'est du domaine de la science-fiction, cette classification sociétale par rapport à notre patrimoine génétique, est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est inévitable ? Est-ce que ça pourrait arriver de façon spontanée avec les découvertes ?
Je connais au moins un acteur privé qui serait extrêmement intéressé par tout décodage du séquençage du génome, c'est les assurances, les sociétés d'assurance. Moi, c'est le genre de perspective qui m'effraie totalement. Imaginez que dès l'instant de la naissance, un bébé est tout de suite fiché par les mutuelles et les assurances maladies qui vont lui annoncer dès la naissance quel taux de cotisation il devra payer en fonction du risque qu'il a dans son capital. Moi, ce genre de perspective, ça me terrifie. C'est un peu ce qui est exploré dans Bienvenue à Gattaca, où a priori, si votre capital génétique est trop bas, ben vous n'avez pas accès à votre choix de profession est beaucoup plus restreint parce que votre espérance de vie, elle est probablement de 38 ans, vous avez une faiblesse cardiaque qui émergera peut-être. Alors, il n'y a jamais de certitude. Je pense que sur ce plan-là, l'approche scientifique est assez rigoureuse au sens où, dans Bienvenue à Gattaca, c'est jamais exprimé comme un risque certain. C'est toujours une probabilité.
Mmh. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la littérature de génétique, il y a beaucoup de gens qui proposent des scores de risque génétique. Ça s'appelle les polygenic risk scores, PRS. Et ça, on le voit dans les grandes revues scientifiques sur différentes pathologies. Il y a quelques... Il y a quelques semaines, on a eu un article dans la revue Nature Génétique sur ces nouvelles évaluations de risque pour différentes pathologies. Et c'est effectivement quelque chose, mais en fait, c'est des mesures qui sont faites au niveau de l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En termes individuels, probablement pas grand-chose. On citait le risque une espérance de vie de 38 ans, mais bon, on peut très bien sortir dans la rue et se faire renverser par une voiture. Donc il faut prendre tout ça en compte dans ces mesures. Mais effectivement, il y a cette crainte, et ça, les généticiens en sont bien conscients, et on essaye de mettre des barrières. Et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui se font aussi pour protéger les données génétiques. Puisque si on arrive à avoir des bases de données génétiques avec un certain nombre de personnes qui acceptent, ou pour la recherche, de donner accès donc à leur séquence, ou dans le cadre du soin, puisque aujourd'hui il y a des projets qui se développent pour intégrer le séquençage dans la pratique clinique. Donc c'est le projet de médecine génomique 2025, et donc dans ce plan de médecine génomique, il y a ces aspects éthiques sont beaucoup discutés dans l'idée d'essayer de parer justement à ce risque de prix, de pouvoir que tout le monde puisse accéder et puis faire des calculs de probabilité sur ces données génétiques. Donc on réfléchit aux différents moyens de protéger au maximum ces données. Mais c'est vrai que aussi pour la recherche en tout cas et pour avancer, on a besoin de les partager ces données. Donc c'est un peu un compromis à trouver. Mais bon, effectivement, alors aujourd'hui, comme je disais, il faut quand même se dire que pour l'instant, ça reste des calculs de probabilité qui sont basés sur des hypothèses, qui sont aussi des modèles assez contraints, d'imaginer qu'on peut décortiquer en fait dans un phénotype ce qui est dû. Dans un phénotype, donc dans ce qui s'exprime, des traits qui s'expriment, ce qui est dû à la génétique et ce qui est dû à l'environnement. En fait, c'est la base de la plupart de ces modèles qui calculent ce qu'on appelle une héritabilité, mais qui font vraiment cette hypothèse qu'on peut complètement discerner l'un de l'autre, alors qu'en fait, il y a des interactions très complexes dans l'expression des gènes. Aujourd'hui, on sait que l'environnement peut jouer, et donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment discerner l'un de l'autre? Alors, nous, il y a... T'as aussi un courant de pensée aussi en génétique qui dit bah non, on peut pas le faire, et donc peut-être que ces calculs ils veulent rien dire non plus.
Je peux poser une question à Emmanuel, parce que Emmanuel a dit tout à l'heure quelque chose que je trouve assez fascinant et je voulais être sûre d'avoir bien compris. Donc il n'y aurait que 1 à 2% de notre ADN qui s'exprimerait et dont on retrouverait la trace dans le morphotype. Alors,
pour des protéines en fait, donc qui va. Mais après il y a tout le reste en fait, ça serait ce qui va contrôler l'expression du gène, puisque bon, on a toutes les cellules de notre corps ont le même génome en fait, mais après en fonction de l'organe, c'est certains gènes seulement qui vont s'exprimer, et donc ça c'est contrôlé par le reste du génome plus d'autres facteurs, d'autres
facteurs. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en gros, on ne sait pas ce que fait 98% de notre génome. Et alors, du coup, ça veut dire que cette part du génome est probablement capable de faire des trucs qu'on n'a pas encore eu l'occasion de mesurer, qui, plongés dans d'autres contextes, peut-être provoquerait des phénomènes que nous n'imaginons absolument pas. Et je trouve qu'on a des pistes géniales, là, en tant qu'auteur.
Non, mais c'est effectivement aujourd'hui la question.
Il va falloir qu'on discute.
Oui, et c'est vrai qu'on est pour l'instant, en fait, les projets. Alors, je vous disais qu'on peut faire du séquençage même en population. C'est proposé dans le cadre de l'étude de maladies où on va pouvoir séquencer tout un ensemble d'individus qui sont atteints de la pathologie et les comparer à des gens qui n'ont pas cette maladie. Mais ça, en fait, aujourd'hui, on l'a surtout fait au niveau de ce qu'on appelle l'exome, donc la partie exprimée du génome. Et c'est effectivement à 2% seulement du génome. Alors, on commence à faire des études. Déjà, au départ, on l'a fait parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Hein. On n'avait pas besoin de séquencer les 3 milliards de bases. Et on l'a fait aussi parce qu'on s'est dit que, de toute façon, on n'arriverait pas à analyser ces 98% du génome si on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Et comme quand on trouve... Parce que je vous dis 3 milliards de bases, et en fait, par rapport à la séquence de référence, on va avoir à peu près une variation sur 1000 bases. Donc, ça veut dire qu'on trouve... Dans un génome complet, 3 millions de variants par rapport, entre 3 et 5 millions de variants par rapport à la séquence de référence. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on analyse les données. C'est-à-dire qu'on séquence le génome d'un malade, par exemple, et puis on va le comparer à cette séquence de référence qu'on avait déterminée au début et regarder les endroits du génome où il y a une base qui est différente. Et là, il y aura à peu près 3 millions de variants. Donc 3 millions, c'est énorme. Donc quand on faisait au niveau du génome, on était plutôt autour de 100 000 variants si on prenait les parties déjà un petit peu régulatrices qu'on prenait déjà en compte. Mais effectivement, il y a tout ça qui reste un grand inconnu et l'objet d'études dans les années qui vont venir. Donc il y a déjà des études qui se font cibler sur certains gènes, mais maintenant on voudrait le faire à l'échelle du génome entier.
Et on joue à en bricoler des parties. Enfin, moi, j'en profite. Ouais. Hein.
Non, mais c'est la question que j'allais poser aussi, parce que s'il y a 98% dont on méconnaît le rôle, est-ce que c'est pas un petit peu jouer à l'apprenti sorcier, en fait, d'aller bricoler là-dedans, d'aller trifouiller pour voir si on peut rajouter un petit bout, là? Voilà.
Bah alors aujourd'hui, heureusement, on le fait pas. Si on peut le faire, on le fait uniquement sur certaines cellules et encore... Ça se fait pas trop, mais on le fait pas au niveau des cellules qu'on appelle germinales, qui vont être transmises à la descendance, puisque là, effectivement, ce serait vraiment jouer à l'apprenti sorcier et pas savoir ce qu'on transmet aux générations futures. Donc, pour l'instant, effectivement. Mais ça montre toute la complexité, finalement, des questions. Se dire, si on peut modifier le gène qui est muté et qui donne cette maladie-là, est-ce qu'il faut le faire? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réponse, c'est de le faire. Sur les cellules au niveau de chaque cellule et pas au niveau de l'organisme entier. Quoi.
Et donc tout à l'heure, on parlait de l'inné et de l'acquis. Ça se voit également dans le meilleur des mondes, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de modification génétique des epsilon. Hein, ils sont juste soumis à un environnement particulier.
Particulièrement toxique.
Oui, particulièrement toxique, qui va les orienter vers finalement une vie spécifique, souvent pas très rigolote, d'appuyeur de boutons d'ascenseur. Quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis chez chacun d'entre nous? Est-ce que ça, c'est quantifiable? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce qu'on sait?
C'est ce qu'on essaye de mesurer, mais alors en fait, non, la question est, qu'essaye de mesurer, par exemple, les études d'héritabilité. Sauf qu'en fait, ce que mesurent les études d'héritabilité, c'est la part de l'inné et de l'acquis dans la variation d'un trait à l'échelle d'une population. Donc ça veut rien dire sur l'échelle individuelle. Par exemple, on va trouver que l'héritabilité de la, ce qui a beaucoup été étudié comme trait, ça, du coup, c'est pas une maladie, mais c'est la taille. La taille, donc l'héritabilité de la taille, les études faites sur les jumeaux ou les concordes ou des études sur des familles qui regardaient la concordance du trait, donc de la taille entre apparentés, mesuraient une héritabilité de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que dans la variation de la taille, il y aurait 80% de cette variabilité qui serait associée à la génétique. Mais ça ne veut pas dire que chez quelqu'un, on peut dire qu'il a 80% de sa taille qui est due à ses gènes et 20%. C'est une mesure au niveau de la population qui donne juste, alors qui est beaucoup utilisée aujourd'hui aussi sur énormément de traits, et notamment tout ce qui est étude de la génétique comportementale, mais de faire attention effectivement à ce que ça représente, et que c'est effectivement cette quantification qu'on veut utiliser pour dire est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui contrôlent le trait. Mais en fait, on n'est pas du tout dans une mesure de causalité. On est dans une mesure de séparer dans cette variabilité ce qui est dû à la génétique et ce qui est dû à l'environnement. C'est ce que je disais, en fait, c'est un modèle qui suppose qu'il n'y a pas d'interaction aussi entre les deux. Donc, ce qui est quand même un modèle qui n'est pas tout à fait qui peut être assez loin de la réalité et pas très très réaliste, effectivement.
Alors du coup, Sylvie Lenné, dans l'opéra de Saya, vous avez justement rendu extrêmement floues ces barrières, hein, puisque l'environnement influence le génome des autochtones, hein, l'environnement complet de la planète, et les autochtones influencent également le génome de l'environnement, les végétaux, tout communique, tout s'adapte, tout se répond. D'où vous est venue cette idée d'interaction complète?
Mais c'est pas exactement de l'interaction entre la planète et ses habitants et sa faune et sa flore, c'est plutôt une planète, une faune et une flore qui ont besoin d'aller chercher de l'ADN à l'extérieur pour introduire un cycle de vie dont la flexibilité génétique fait partie. S'il n'y a pas une dose d'étrangers, de différents qui arrivent sur la planète, elle se stérilise petit à petit. Elle a besoin de ça. Donc, ma thématique, c'est plutôt la flexibilité.
Et donc, cette flexibilité.
Comme une nécessité.
Oui. Cette flexibilité génétique, en fait, ça vous a intéressé pour. Comment vous avez pensé à. Est-ce que vous avez pensé que, par exemple, il y avait plus d'interactions entre nous et notre environnement que ce qu'on savait encore à l'heure actuelle?
Je ne suis pas généticienne, moi j'utilise la science comme une métaphore. Ce dont j'avais envie de parler, je pense, c'est de tout le processus qu'il y a dans les rencontres, dans les échanges humains, en utilisant la génétique comme une métaphore du fait que l'autre nous transforme et quelle est la part de nous qui constitue notre identité stable. Est-ce qu'on a besoin d'être stable pour être un individu? À chaque fois qu'on change quelque chose dans sa vie, on se transforme en même temps. Donc, quel est le vrai d'entre nous parmi toutes ces identités qu'on peut assumer à tour de rôle? Je ne suis pas la seule en science-fiction à m'intéresser à ces thématiques. Si vous n'avez jamais lu Greg Egan et si vous aimez ces thématiques-là, lisez Greg Egan, il est fascinant. Parce que, pour moi, bien évidemment, utiliser la flexibilité génétique comme un argument, c'est se demander... Qu'est-ce qui est stable en nous, à la fois du point de vue de notre essence, mais aussi du point de vue de nos jugements de valeur, de notre éthique. Il y a des pièges dans l'opéra Chaya. C'est-à-dire que je ne vais pas vous raconter quel est le cycle de vie complet des créatures les plus évoluées de Chaya, mais ça implique des choses que culturellement nous n'acceptons pas. Mais la biologie et l'éthique ne peuvent pas, il me semble, être considérées séparément. Donc, c'est quoi les... Par exemple, moi, dans les questions théoriques qui m'intéressent, est-ce qu'il y a des fondamentaux et des universels de l'éthique? On a tendance à penser que oui, j'en suis pas sûre, mais c'est à explorer. Et voilà, utiliser la génétique, comme utiliser la chimie, comme utiliser... n'importe quel outil politique, économique, social, juridique, c'est des manières de réfléchir à ces éléments stables. C'est quoi l'humanité, finalement? Enfin, on ne pose que des questions philosophiques dans la science-fiction.
Et alors, c'est quoi l'humanité, Emmanuel Genet?
La génétique a une réponse. C'est très rassurant parce que c'est une question universelle. Au moins, il y a une réponse.
Non, alors moi, je vais rebondir sur est-ce qu'il y a une éthique universelle. En tout cas, c'est vrai que c'est des choses qui sont beaucoup discutées au niveau international en génétique. Et je pense qu'effectivement, on voit des courants de pensée qui sont un peu différents en fonction des cultures. Bon, l'exemple assez caractéristique, c'est qu'en France, on ne peut pas faire séquencer son génome en dehors d'un cadre légal de recherche de paternité sur demande expresse d'un juge ou dans un cadre médical, alors que dans pas mal d'autres pays dans le monde, on peut utiliser, d'ailleurs c'est pour ça que ça se développe beaucoup, des compagnies qui proposent ce séquençage, en fait pas forcément que du séquençage, ça peut être aussi juste du génotypage. Quand on garde les endroits du génome, on sait qu'il y a de la variation. Et ça se développe beaucoup. En France, aucune entreprise ne s'est développée dans ce secteur, puisque de toute façon, c'était interdit. Donc ça, c'est un moyen détourné là, de ne pas répondre à ce qu'est-ce que l'humanité, mais je crois qu'effectivement, c'est une question très difficile. Alors après, je voulais rebondir aussi sur le fait de la flexibilité génétique. Alors c'est vrai qu'elle existe, peut-être pas à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la population, puisqu'effectivement, on sait très bien qu'il y a des variants qui vont devenir plus fréquents, puisqu'ils confèrent un avantage à ceux qui les portent. Et puis, au cours des générations, du coup, leur fréquence en population va augmenter. Donc ça existe effectivement plutôt à l'échelle de toute l'espèce et pas individuelle. Et du coup, est-ce que ça représente cette... Alors je ne sais pas, moi je retourne la question à la biologiste aussi. Qu'est-ce que l'humanité...
En tant qu'espèce, qu'est-ce qui nous permet de nous définir en tant qu'espèce? À partir de quel moment est-ce que une espèce est considérée? On parlait de stabilité tout à l'heure, d'individualité. Du coup, est-ce que ça a du sens génétiquement parlant? Est-ce qu'on est capable de se définir nous humains en tant qu'espèce de façon précise?
Alors après, il y a la définition biologique de l'espèce qui fait que c'est des individus qui peuvent se reproduire et avoir des descendants qui eux-mêmes peuvent se reproduire. Alors après, d'un point de vue génétique, on sait qu'il va y avoir des différences sur la composition du génome avec des nombres de chromosomes qui ne vont pas être les mêmes. Donc du coup, ça va créer aussi une barrière sur la possibilité de reproduction. Et cette structure finalement du génome, c'est ce qui va être important. Donc cette définition effectivement de l'espèce, je pense, moi, j'ai du mal à aller au-delà. Alors après, quand on dit est-ce qu'on peut donc est-ce que les hybridations, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble de la science-fiction du coup aujourd'hui.
Alors, c'est pas exactement de l'hybridation, mais dans les yeux d'Elsa, Sylvie Lenné, vous travaillez sur l'ingénierie génétique et donc la création notamment d'espèces à moitié dauphin, à moitié humaine.
Génétiquement améliorée, oui. Parce que ça reste un dauphin.
Oui, ça reste un dauphin, mais partageant du coup des caractéristiques humanoïdes, à vocation donc de travailler pour...
Enfin, c'est pas leur vocation, disons.
Non.
Que c'est le rôle dans lequel on les...
C'est
le rôle qu'on leur assigne.
Voilà, on les a créés pour. Et donc, du coup, pour vous, la notion d'espèce, la notion d'humanité vis-à-vis de... En science-fiction, ça se travaille aussi, ça sert aussi pour la métaphore?
Bien sûr. Les yeux d'Elsa, c'est une métaphore des difficultés qu'il peut y avoir dans une relation homme-femme. Et c'est beaucoup plus intéressant de parler des relations homme-femme en faisant d'un des deux protagonistes une créature qui n'est pas tout à fait humaine, parce que ça permet d'aborder sous un angle différent la question qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la personne en face de nous comme étant un être humain. Et ça, je trouve que c'est une vraie question. Sommes-nous toujours prêts à en accepter le principe? Comment acceptons-nous l'idée que la personne en face de nous a le même niveau ou le degré de conscience que nous-mêmes? Et comment est-ce qu'on va construire un jugement face à une créature qui apparaît comme différente, même si elle a des capacités verbales, émotionnelles, intellectuelles évidentes? À un moment donné, mon protagoniste, qui est le narrateur, va dire, et évidemment il a raison, il va dire « oui, mais c'est un animal ». Oui, mais à partir du moment où on a ce point de départ, sur quel principe on reconnaît, alors je peux même pas dire l'humanité de la personne qui est en face, parce que humanité, du coup, c'est enfermant comme terme. Comment on reconnaît l'identité de la créature qui est en face de nous comme étant d'un niveau au moins égal au nôtre? Vous voyez, on est obligé de dire les choses de manière très compliquée. C'est pour ça que les métaphores, c'est bien. Et on peut se servir de la génétique ou d'autres outils. Mais oui, j'en reviens à l'idée qu'on travaille toujours. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'empare d'une métaphore, elle-même, elle ouvre de nouvelles questions. Moi, dans l'opéra de Chaya, je me suis retrouvée, et ça s'est construit au fil du récit, le point de départ, c'était donc des créatures qui, étant génétiquement flexibles, vivaient des états de plaisir et d'excitation à chaque fois qu'elles rencontraient un ADN différent, qu'elles n'avaient encore jamais, avec lesquels elles ne s'étaient pas encore mélangées. Mais dans mon récit, c'est apparu assez naturel qu'il y ait la population qui profite de ces effets de flexibilité qui sont temporaires et qui reviennent à un genre d'état stable, standard, en dehors de ces périodes de rencontres interespèces. Et puis, de temps en temps, il y en a quelques-uns qui vont jusqu'au bout d'un processus d'imprégnation qui devient, du coup, irréversible. Et ça, je me demandais si, du côté du travail des généticiens, on peut se poser les questions en ces termes-là, c'est-à-dire de... Est-ce qu'on peut agir sur l'ADN d'une manière qui ferait que la mémoire, peut-être dans les 98% qu'on connaît moins, remettrait le génome dans sa situation normale, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a une certaine manière de modifier ou d'intervenir sur ce génome, ou un seuil au-delà duquel, oui, il est fondamentalement différent?
Alors... C'est pareil, c'est une question un peu difficile. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement des variations, mais enfin, c'est vrai que c'est plus une évolution lente à l'échelle de la population qui fait qu'à un moment, il y a des variants qu'on va perdre, qui vont disparaître, ou parce qu'ils étaient sélectionnés négativement, et donc à ce moment-là, effectivement, là, après, pour répondre à est-ce on peut dire qu'il y a un moment où on change, dans le processus de spéciation, oui, il y a un moment où on va changer de manière complètement irrévocable, et puis on va plus pouvoir, il y aura plus de possibilité d'interfécondité. À ce moment-là, il y a deux espèces différentes. Ça, on sait que ça a pu se produire quand, dans certaines, il y a une barrière, par exemple, géographique qui fait que deux populations vont être séparées. Et à ce moment-là, ça va créer deux espèces en fait au cours des générations. Mais c'est un processus quand même lent qui fait que ces accumulations de différences vont faire qu'à un moment, les deux groupes de populations qui au début étaient une seule espèce vont pouvoir être deux.
Que les bergers allemands et les teckels deviennent beaucoup moins compatibles.
Par exemple. Mais ça peut être effectivement une barrière géographique qui fait qu'à un moment, ça se sépare de populations.
Et donc, l'environnement a une influence sur les gènes qui sont conservés, sur le génome des individus, quelles que soient les espèces. Cette influence de l'environnement, elle peut se manifester de quelle façon ?
Alors, en fait, elle va pouvoir se manifester par l'expression du gène. Alors, on sait que, par exemple, il y a certaines protéines qui vont être exprimées quand les cellules sont dans un état de stress. Et donc, à ce moment-là, ça va exprimer. Donc, ça va jouer au niveau, on pense, que pour que le gène s'exprime. Alors, on ne maîtrise pas encore complètement les séquences régulatrices et ce qui se passe. Il y a probablement aussi des topologies particulières de l'ADN qui fait qu'il faut qu'il soit ouvert, enfin, des zones de chromatine ouverte, en fait, des choses un peu compliquées qui font appel à beaucoup de choses. Et puis, effectivement, ça va pouvoir jouer à ce niveau-là. Alors après, ça, c'est une des possibilités. Alors le problème aussi, c'est que l'environnement, c'est quelque chose... C'est pour ça aussi que la génétique a peut-être été, dans l'étude des maladies, un domaine un peu particulier, parce que le problème de l'environnement, c'est que c'est quelque chose qui est moins stable, alors qu'on voyait plutôt la génétique comme quelque chose de très stable, même si... Finalement, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est pas forcément si simple que ça et quelque chose. Mais c'est vrai que notre génome, il va pouvoir subir des mutations qu'on appelle somatiques, donc au niveau de certaines cellules, mais qui vont être finalement pas très 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 importantes. Et c'est quelque chose qui reste plus stable que l'environnement, qui va changer au cours du temps et qui demande donc des études plus longitudinales. Et ça, pour l'instant, ça manque. On n'a pas de mesures d'exposition sur le long terme. Et puis ça fait aussi en parallèle avec des mesures sur l'expression des gènes. Mais bon, ça va se développer. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui vont essayer de faire ces mesures longitudinales pour pouvoir répondre de manière plus précise à ces questions-là. Mais ça reste encore le grand inconnu. Et la détection des interactions entre gènes et environnement, c'est encore un champ aussi de recherche important et qui va... On espère apporter des nouvelles réponses.
Et en littérature, du coup, donc on a vu avec l'opéra de Chaya les interactions avec l'environnement. On a vu également qu'on pouvait créer par l'ingénierie génétique des êtres vivants capables de répondre à certains besoins et changer l'humain pour répondre à des besoins. Je pense notamment à la conquête spatiale. Est-ce que ça vous semble de la science-fiction, Sylvie Lainé ?
Oh ben... De la science-fiction, oui, si on ne le prend pas dans un sens péjoratif. Mais moi, je me dis, vu l'état dans lequel on est en train de mettre notre planète, ce serait une très bonne chose. Je ne sais pas si on s'y prendra assez vite pour empêcher la planète de se transformer très fondamentalement. Mais moi, j'aimerais bien qu'on essaie de réfléchir à la manière d'adapter l'humain à son nouveau lieu de vie qui l'a malheureusement transformé de manière ultra rapide. Donc ce sera peut-être une nécessité un jour de nous adapter à la Terre telle qu'elle est en train de devenir. J'espère que les généticiens pourront nous y aider. Mais ça ne me paraît pas du tout de la science-fiction, parce que si on ne fait pas ça, je ne sais pas ce qu'on va faire.
Mais du coup, si on adapte l'être humain génétiquement, de façon volontaire pour l'adapter à son nouvel environnement, est-ce que ce sera toujours un être humain ?
C'est...
Qu'est-ce que tu appelles un être humain ?
On en revient à la question. Et puis, il faut faire attention aussi, parce que justement, ce qui caractérise aussi et ce qui est important dans les populations, c'est la diversité, parce que là, on a l'impression qu'il y a un génome humain. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que ce qui fait qu'une espèce... peut survivre, c'est la diversité qui existe dans cette espèce et qui fait qu'elle va pouvoir s'adapter à l'environnement. Donc est-ce que c'est souhaitable de se dire on va trouver le meilleur, et c'est pas toujours la solution la meilleure qui va avoir sur le long terme le plus de chances d'aboutir. sortir, parce que justement, il faut garder des gens qui sont peut-être moins bien adaptés à cet environnement-là, mais qui vont au contraire être mieux adaptés quand un autre environnement va se présenter. Donc je pense que c'est important de garder cette notion de... Il n'y a pas un génome humain, il y a énormément... Il y a aussi des variations...
Et moi, je me disais que la thématique du mutant avait été une des grandes thématiques de la science-fiction dans les années 70-80, et qu'il me semble qu'on la traite moins maintenant, alors que ce serait très intéressant de la reprendre, justement. Le mutant, il y a des grands romans de Van Vogt, enfin, tout un tas de grands auteurs de l'âge d'or. Qui travaille sur les mutants actuellement?
Mais alors après, il faut savoir ce qu'on appelle mutant, parce que tout le monde est mutant, tout le monde a des mutations, justement, c'est ce que je voulais. Mais,
Sylvie Dainé, du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les découvertes en génétique ont paralysé l'imaginaire des auteurs à ce domaine-là?
Oh non, non, ça va encore. Non, non, je crois que... de toute façon, il n'y a aucun domaine scientifique dont on ait l'impression d'avoir fait le tour. Donc, tant qu'on n'a pas fait le tour d'un sujet, il reste une mine.
Mais par contre, on a aussi beaucoup remplacé les androïdes et les robots des années 70 par des modifications génétiques, par un impact génétique dans la littérature.
Oui, mais maintenant, on a des univers virtuels, on a des... on peut jouer avec les idées sous un tas d'angles différents. Est-ce que je peux poser une question du public? J'en profite, je suis assise sur une chaise, c'est un bon endroit. Est-ce que je peux profiter de l'occasion d'avoir une brillante généticienne pour lui demander un truc qui va peut-être vous paraître idiot, mais sur moi je n'en sais rien. Je peux?
Ben oui.
On a.
C'est pas respectueux.
Non, mais nous avons des tas de choses génétiquement modifiées autour de nous qu'on appelle des OGM, des céréales par exemple. Et une des caractéristiques actuelles des OGM, si je ne m'abuse, mais commercialisées par des multinationales, c'est que ce sont des céréales stériles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réensemencer, on est obligé... Alors peut-être que je dis des bêtises, probablement, mais je vais quand même jusqu'au bout de mon truc. Pour l'instant, on est dans des processus où, en gros, les agriculteurs se retrouvent obligés d'acheter régulièrement ces céréales ou ces semences génétiquement modifiées parce qu'elles sont stériles. Est-ce que c'est lié aux modifications génétiques que l'on a fait dans ces semences ou est-ce que c'est une volonté commerciale des multinationales qui souhaitent enfermer les agriculteurs dans un système économique? Elle est très bête, ma question, mais
elle est superbe.
Je pense que c'est la deuxième réponse.
D'accord. Alors, je suis contente de l'avoir posée.
Je vais modérer quelque chose par rapport à ça. Enfin, je vais modérer, moi. Je suis absolument d'accord que c'est la deuxième réponse. Néanmoins, il faut imaginer ce que ce serait si ces semences génétiquement modifiées n'étaient pas stériles. Elles iraient immédiatement coloniser le milieu. Immédiatement.
Mais elles le font déjà.
Non, puisqu'elles sont stériles.
Mais du coup, elles peuvent.
Oui, mais elles peuvent être consommées. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir 36 millions de générations.
Elles sont consommées. Mais imaginons que demain, on cesse de les produire, elles n'auront pas envahi le milieu naturel. Normalement, hein, on a eu des preuves que certaines qui étaient censées être stériles, elles l'ont été vachement moins au bout de 6 mois. Mais normalement. Mais voilà, il y a aussi une volonté de ne pas avoir un impact définitif environnemental. Voilà. Oui. Mais.
Non, mais c'est vrai que ça permet de dire finalement de couvrir la réalité des choses.
Il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public?
Bonjour. C'est bizarre de s'entendre. Juste à propos des OGM, les gènes Terminator qui rendent les OGM stériles ne sont généralement...
Les gènes Terminator, déjà, ouais. Ça fait...
Généralement, ils ne sont pas commercialisés. Hein. Je pense même qu'ils ne sont pas commercialisés du tout. Et à la base, c'était justement pour ce qu'on dit, pour ne pas être répandu dans... Et absolument pas. Alors, pourquoi les agriculteurs, à chaque année, redemandent une semence nouvelle? C'est justement pour avoir des semences optimisées à chaque fois. Ils ne sont pas du tout obligés de le faire, techniquement. Moi, j'avais une question totalement différente. Vous avez dit... vous avez précisé qu'en France, on était un des rares pays, peut-être même le seul pays, où c'est interdit de vendre des séquençages à but médical. C'est-à-dire qu'on a le droit de le faire pour des séquençages héréditaires, mais hors des séquençages médicaux.
Enfin, c'est pas à vendre, c'est qu'on n'a pas le droit de nous faire d'utiliser même les compagnies qui vendent ces possibilités de séquençage à l'extérieur.
Ouais,
c'est-à-dire que nous, on est hors la loi si on le fait. Quoi.
Ouais, bon, c'est pas très difficile à contourner, il suffit d'envoyer les kits 23andMe
aux
Angleterre.
En fait,
ouais. C'est l'entreprise qui risque une amende pas
nous. Non, si, c'est nous.
Si, nous aussi.
Oui.
Très bien.
Bon, alors, bon après,
je l'ai pas fait.
Faut...
pardon. Donc, je disais, j'avais trois questions là-dessus, rapides, hein, toutes liées. Est-ce que comment vous expliquez ce bioconservatisme qui est très spécifique à la France? Est-ce que vous pensez que ça handicape beaucoup la recherche française? Parce que là où 23andMe va avoir des milliers de séquençages génétiques associés à des informations, bah les entreprises françaises, les recherches françaises n'ont pas ces informations. Et troisièmement, est-ce que vous pensez que ça va changer? Merci.
Alors, je pense que... Enfin, est-ce que ça handicape... Ça a handicapé, en fait, le développement, par contre, d'un secteur industriel autour de la génétique, je pense. Aujourd'hui, les compagnies comme 23andMe développent leur propre recherche à partir de cette base de données et la donnent pas forcément accessible à tous. Donc, après, quand il y a possibilité, je pense, de demander des accès. Après, il y a des bases de données publiques qui sont disponibles. Donc, sur cette handicapée, la recherche, je suis pas sûre. Par contre, effectivement, c'est tout le développement de ce secteur industriel autour de la génétique qui a probablement pâti de ça. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je ne me prononcerai pas. Je pense que derrière, c'était le danger aussi de se dire que finalement, on récupère des informations qu'on n'est pas forcément, enfin, qu'on ne peut pas forcément interpréter. D'ailleurs, ces compagnies comme 23andMe ont un peu reculé, parce qu'au départ, ils donnaient toutes les informations sur plutôt la santé. Maintenant, c'est par défaut, on a juste l'information sur l'origine et puis éventuellement retrouver des apparentés dans leur base de données. On peut encore avoir des informations sur des mutations qu'on peut avoir dans les gènes, mais c'est un petit peu moins systématique, puisque c'était fait sans contrôle médical et pas dans un cadre effectivement médical. Donc d'avoir une information sur vous avez une mutation sans arriver, sans qu'il y ait tout l'accompagnement, ça pose quand même un problème. Est-ce que ça va changer? C'est possible que ça change avec effectivement le développement finalement de cette médecine génomique, puisque on aura peut-être de plus en plus accès à ces séquences. Et en tout cas, dans le plan France Médecine Génomique, il y a la volonté aussi qu'il puisse y avoir des accès sur ces bases de données. Donc, du coup, est-ce que le séquençage va rentrer dans un cadre légal? Sans doute, mais c'est des choses qui sont en train d'être travaillées aussi, et avec toutes les questions que ça pose d'un point de vue éthique qu'on a déjà évoquées sur... l'information, finalement, est-ce qu'on a le droit aussi de ne pas vouloir savoir quelle pathologie on peut développer? Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de donner des informations sur des gènes qu'on appelle actionnables, sur lesquels on sait qu'il peut y avoir peut-être quelque chose à faire en termes de traitement préventif ou au moins de surveillance.
Donc, ce sera la dernière question, par contre, parce qu'on me dit qu'on est pressé par le temps.
Sylvie, vous aviez commencé par dire que vous préfériez écrire sur un domaine qui n'est pas le vôtre, mais finalement, un génome, on peut le voir aussi comme de l'information qui code le comportement d'un système, alors, qui en l'occurrence est biologique. Il y a déjà des liens évidemment entre l'informatique et la génétique, mais c'est pour le moment, il me semble que c'est surtout un des deux domaines qui est au service de l'autre. La génétique a beaucoup de données à traiter et... Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement ces deux domaines convergent et quand on parle de manipulation génétique, pour le moment, on pense souvent à du puzzle, en gros, mélanger des morceaux de génome qui existent déjà en les prenant. Est-ce qu'on peut imaginer du développement génétique, c'est-à-dire que des gens aillent écrire du code génétique? Voilà, alors ça fait un clavier à quatre touches, c'est assez simple, mais en termes de matériel. Hein. Mais plutôt que d'assembler des choses qui existent déjà, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour des gens aillent écrire, de fabriquer des choses biologiques en tapant du code génétique à partir de rien, quoi.
On a fait une table ronde qui s'appelait la machine biologique, qui parlait pas exactement de ça, mais c'est vrai que c'est des idées qu'il est très intéressant de mixer de plusieurs façons. Aller fabriquer du génome à partir d'un alphabet qui est extrêmement simple qu'un informaticien, enfin qui est à peine plus compliqué que du binaire, puisqu'il n'y a que 4 caractères, c'est pas l'alphabet d'une grande simplicité. Par contre, le nombre de combinaisons est complètement fascinant. Maintenant, le volume des données, c'est plus un problème en informatique. Donc, oui, ce serait jouer à faire du Lego avec de l'ADN, c'est une idée fascinante. Maintenant, moi, je reste toujours sur cette idée qu'il n'y a que 1 ou 2% qui s'expriment. On ne sait pas pourquoi c'est cette part-là qui s'exprime. Et qu'est-ce qui se passe avec les 98 autres pourcents?
Puis après, écrire ce code génétique, on le fait un peu tous les jours dans les labos quand on veut voir l'impact d'une mutation. On crée, on rentre un morceau d'ADN. Enfin, c'est recréer effectivement la protéine qui existe. Mais après, le problème, c'est si on crée quelque chose qui n'existe pas, et est-ce que on va réussir à avoir la machinerie métabolique qui va permettre que ça s'exprime? Voilà, ça reste.
Si on ne sait pas si on fabrique un démon ou une licorne, on peut avoir des surprises quand même.
Merci beaucoup à nos deux invités. Merci à vous, public.